Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman, Tempo di imparare, temps d'apprendre, qui n'est pas encore traduit, écrit par l'autrice napolitaine Valeria Parella, qui est publié en 2013 aux éditions Einaudi. Parella s'est d'abord fait connaître par des recueils de nouvelles. Son premier recueil, Mosca più balena, apparaît en 2003, et elle écrit ensuite des pièces de théâtre, puis en 2008 son premier roman, Spazio Bianco, dont sera tiré le film de Francesca Comencini, qui est traduit en français par Le temps suspendu, et qui est un récit qui aborde la maternité comme un espace blanc entre vie et mort dans un service de soins intensifs en néonatalité, puisque la protagoniste est la mère d'une enfant prématurée. Donc ici, j'explorerai le roman Tempo di imparare, qui lui est un roman qui, pour partir du titre, explore justement la temporalité de l'apprentissage. Et plus précisément, l'apprentissage d'une vie particulière, celle d'une maternité d'un enfant en situation de handicap. La narratrice est la mère de Arturo, un enfant qui est atteint d'un handicap cognitif et physique, puisqu'il ne voit que d'un œil. Le roman est composé de 34 courts chapitres qui portent chacun un titre, en plus d'un prologue et d'un épilogue. C'est un roman qui est écrit à la première personne et qui nous immerge dans la réalité de la narratrice en interaction avec son fils. Et avec une constellation d'autres personnages qui gravitent autour d'elle. Dans le temps qui m'est imparti, je propose d'analyser cette maternité singulière, et plus précisément comment la société validiste dans laquelle nous vivons en fait une maternité singulière, pour ne pas dire déviante et anormale. Je souhaiterais explorer cette maternité à travers le prisme du corps et ce que le handicap de l'enfant imprime sur le corps de la mère, de quelle façon elle le prend en charge du point de vue de la corporéité. Et en ce sens, je mobiliserai une notion qui est issue de l'anthropologie médicale, inter-embodiment, pour tenter de comprendre la transmission, la possible, la fusion qui opère entre le corps de l'enfant, ici vulnérable et potentiellement exposé à un monde hostile, et celui de la mère qui s'érige en barricade protectrice. Alors, il ne s'agit pas ici de dépeindre une intuition maternelle qui verserait dans l'essentialisme, mais bien d'étudier la façon dont c'est le corps de la mère, qui devient à la fois acteur, mais aussi support. Le roman explore la dimension de l'intime et du collectif de façon toujours conjointe et mêlée, mais je me concentrerai ici sur la sphère du public et notamment la sphère des institutions, du système scolaire et législatif que la narratrice doit affronter et pour lequel elle doit faire ses armes et contre lequel son corps se met en mouvement pour lutter ou au contraire que son corps est forcé d'assimiler pour mieux pouvoir en maîtriser les contours. Donc dans une première partie que j'ai intitulée Corps en lutte, je vous ai projeté un extrait que j'aimerais analyser. Donc, l'un des fils rouges du roman est précisément celui d'une lutte, celui de la narratrice pour inscrire son fils à une école élémentaire publique qui est réputée à Naples, pour mettre à disposition des moyens, qui sont suffisants. Et cette école est loin de chez eux, elle a peu de place, mais la narratrice est déterminée. Elle déploie toute une panoplie de tactiques pour parvenir à cette inscription. Il faut du temps, du courage, et de la détermination, puisqu'il faut non seulement obtenir une place, mais également en Italie ce qu'on appelle un insegnante di sostegno. L'histoire donc se passe à Naples, dans un pays qui a toujours eu le souci, avec souvent peu de moyens, de mener malgré tout une réelle politique d'inclusion éducative, et qui a été plutôt pionnier en matière de scolarisation en milieu ordinaire et qui contraste assez fortement, pour celles et ceux qui connaissent, avec la France où la multiplication des écoles spécialisées repousse souvent à la marge les enfants différents et où l'inclusion reste trop souvent lettre morte malgré la loi de 2005. Un élément qui est récurrent dans les maternités d'enfants en situation de handicap, qu'on peut observer à la fois dans la littérature mais aussi en sociologie, c'est une pratique que l'on appelle en sociologie intensive mothering, que l'on pourrait traduire par maternage intensif. Donc la mère, puisqu'il s'agit dans la grande majorité des cas de la mère, déploie donc des trésors d'imagination et de détermination pour non seulement maîtriser les règles souvent absurdes et incohérentes de l'administration, mais également tout un vocabulaire qui lui correspond pour faire face à des délais inimaginables, des attentes souvent interminables, un personnel médical qui est parfois incompétent, parfois maladroit, parfois de mauvaise volonté, et continuer malgré tout à espérer et se battre. Donc dans... Comment? Parfois les trois à la fois, tout à fait. Donc dans ce chapitre que je donc dont l'extrait est tiré que je vous ai projeté, qui s'appelle Rabbia primitiva, donc colère primitive, la narratrice consulte un psychomotricien afin d'obtenir un rapport dont elle a besoin pour la fameuse inscription dont je vous parlais. Dans ce court chapitre est reporté le dialogue avec le thérapeute qui a la riche idée de comparer son expérience de père d'un enfant valide avec l'expérience de la narratrice. Il s'agit donc de lui expliquer calmement que les deux situations sont incomparables. Donc je vais vous lire une partie de l'extrait. Vede, lo interrompo io e io tengo stretta in mano la sparacchiodi. Vede, gli dico, io penso che io e lei viviamo in due insiemi irriducibili l'uno all'altro. Pam! Sparo il primo chiodo, gli resta il lobo incollato alla parete. Perché lei ha genitori di figli sani e io no. Pam! Gli prendo il polso nel punto morbido, ora tutto il lato destro incollato alla parete, lui baspa un poco su se stesso. E io avessi avuto dei figli come i suoi, pam, aggiusto il tiro e gli attacco anche la spalla sinistra alla parete, anche se in carne, sono buoni chiodi, si vede. Non me ne sarebbe importato nulla della scuola elementare. Avrei accettato che stesse tra persone che parlano solo in dialetto, avrei saputo che ce l'avrebbe fatto nel bagno sporco e fatiscente. Che se c'era un supplente e un'altra sarebbe stato uguale, mi segue, pam. Sì, mi segue. Avrei proprio auspicato che mio figlio imparasse a dar di botte, potesse tornare a casa con la cartella rotta e potesse andare a festeggiare un suo compagno in basso. No, ma io parlo come terapista, dice lui, e si divincola dai chiodi, mi riaccompagna alla porta, sparo l'ultima volta, e quindi l'esempio su suo figlio non calzava. Je vous ai pas mis la toute fin du dialogue que j'ai pas là, mais où en tout cas elle souligne que en se retournant elle observe qu'il n'y a aucune marque sur le fameux mur et que donc il est sorti indemne de ce combat. Donc ce dialogue nous fait entrer dans une double dimension, la dimension de la réalité qui consiste à devoir écouter donc les inepties de ce psychomotricien et à répondre poliment même si fermement tout en contenant sa colère, la fameuse rabbia primitiva, et une autre dimension qui appartient à l'imaginaire où la narratrice nous partage ses fantasmes de violence physique et ce qui se déroule dans ses tripes. Il y a une superposition donc du fantasme et de la réalité, et la frontière entre les deux parfois se brouille. On sent cette fameuse rabbia primitiva qui bout à l'intérieur de la narratrice avec la répétition, vede, la gestuelle nerveuse et le contenu de son discours, et cette dimension réelle est interrompue par l'irruption d'une onomatopée, pam, et d'une phrase en italique qui indique la dimension, l'imaginaire. Un lieu où il serait possible à la narratrice de laisser libre cours à cette rage primitive qui se libère par à-coups ponctués par les fameux PAM. Donc l'écriture ici devient presque un exutoire, une hétérotopie, un lieu autre où il est possible de se battre au sens physique du terme, où il est possible de laisser voir cette rage primitive qu'il faut sans cesse cacher, polisser, rendre socialement acceptable. Et ce passage est aussi exemplaire en ce qu'il souligne subtilement que la lutte se niche finalement dans les interstices de la banalité. Cette phrase du psychomotricien n'est certainement pas la plus choquante que la narratrice ait entendue, mais elle dit bien le validisme ordinaire, ce manque de compréhension de ce que peut recouvrir le handicap, le manque de subtilité, de finesse, les maladresses qui à la fin sont bien plus que des maladresses et qui peuvent être reçues justement comme des coups, et dont la narratrice doit se défendre ou plutôt contre-attaquer. Et la défense de la narratrice est soigneusement évitée par le thérapeute qui répond ce fameux Ma io parlo come terapista. Et donc, avec cette fin, dietro di lui guardo la parete, manca una scalfitura. Cette dimension héroïque et mythique que recouvrent les luttes parentales pour le droit à vivre de leurs enfants va de pair chez Parella avec une ironie mordante qui désamorce le tragique de la situation et qui peut être considérée d'ailleurs elle aussi comme une arme ou un refuge. Alors, je vous ai juste mis une citation extraite d'un article que je ne vais pas vous lire, mais je voulais simplement commenter cette phrase partir de la citation donc, qui dit que alors, je veux juste que je reprenne. As one mother's commented, mothers of disabled children start off as warriors and become warriors. Donc, elle commence par s'inquiéter pour ensuite devenir des guerrières. Donc j'en arrive à ma deuxième partie, donc le corps empreinte. Donc c'est le même article que je vous cite, et cette fois-ci je pars de la citation où il est expliqué que les mères d'enfants en situation de handicap occupent une position encore plus liminale puisqu'elles ne sont pas handicapées et pourtant elles expérimentent sur leur peau des formes de handicap. Donc dans Tempo di imparare, cette expression, donc sperimentare qualcosa sulla propria pelle, devient vraiment réalité puisque lorsqu'elle souhaite inscrire son fils à l'école, la narratrice caractérise cette inscription comme une véritable mission et explique que je parle de corps empreinte puisqu'elle explique qu'elle a tatoué sur son avant-bras la fameuse loi qui encadre le handicap en Italie. Donc, bisognava conquistarsi democraticamente un posto in uno di questi banchi, quindi anticiparsi di molto, partire di notte, sperando che, esauriti i bimbi della zona, ci fosse ancora uno spazio per noi. E i posti sono pochi, per quelli che portano il numero tatuato sull'avambraccio 10492, la legge dell'integrazione scolastica, quella che promette che impareremo. Donc, on est encore dans le registre de la lutte, comme vous le voyez, donc conquistarsi démocratiquement, et même si démocratique l'entreprise n'en reste pas moins une conquête, avec ce que le terme de conquête comporte d'ardu et d'obstacle. Donc, les enfants, mais également leurs parents, ont cette loi tatouée sur l'avant-bras, et le handicap, et plus précisément ses contours législatifs, qu'il faut connaître sur le bout des doigts, donc expression qui dit elle aussi l'incarnation. Finit donc par définir et les enfants en situation de handicap et leurs parents. Donc cette loi cadre, mais elle imprime également le corps, inscrit sur lui une empreinte indélébile dont le tatouage est, même si métaphorique, la matérialisation. Donc là, le détail 104-92 fait référence à cette loi numéro 104 du 5 février 1992, qui est plus précisément intitulée Loi cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées. Une loi qui, comme le précise la chercheuse Carla Carotenuto, d'un côté garantit une tutelle et une reconnaissance des droits, mais de l'autre également est également un stigmate qui consacre la différence de la personne concernée et crée de l'exclusion. Donc, je vous ai projeté une citation que je ne lirai pas. Dans le roman, donc, il est fait aussi mention d'un autre genre de tatouage, un tatouage qui, pour le coup, cette fois-ci, est le signe de l'amour et dont le récit nous est fait dans le chapitre Integrazione. Donc, la narratrice et Arturo sont dans le métro et la narratrice ressent, sans se l'expliquer, un sentiment rassérénant de faire partie d'un tout, de ne pas se sentir, comme c'est habituellement le cas, à la marge, de se sentir, pour reprendre le titre du chapitre, intégré. Oggi né mi so dire perché, né mi interessa chiedermi perché, mi sento parte assieme a te di un insieme più vasto. Dentro con noi ci sono tutte queste persone che viaggiano nel nostro stesso istante. Questo ci rende interi e siamo noi parte che costruisce l'intero. Allora prendo una penna dalla borsa e ti disegno un cuoricino sulla mano, poi te la offro. Je ne vous lis pas la suite, mais la suite, dans la suite, donc, Arturo dessine à son tour, alors pour le coup, pas un cœur, mais il essaie d'écrire la parole, enfin le mot maman, et justement déborde sur l'avant-bras, parce qu'il a besoin de plus d'espace. Donc, de retour à la maison, Arturo et la narratrice montrent ce fameux body art qui a été, donc, comme elle l'appelle elle, qui a été réalisé par Arturo, où elle rassemble les deux mains pour montrer le mot qui a été écrit. Et la narratrice conclut: «È tempo di aggiungere mani, raddoppiare gli spazi se il movimento è ampio, poi quando serve mettere un trattino e andare a capo». Donc le corps de la narratrice et celui d'Arturo se font corps empreinte, l'un et l'autre dans cette scène ordinaire d'un voyage en métro, inscrivent leur amour sur le corps de l'autre, et l'avant-bras, qui était cette partie donc déjà convoquée parce que support de la fameuse 104, est recouvert autrement par un body art qui oblige donc à agrandir les espaces pour permettre des mouvements plus amples. Des mouvements qui sont nécessaires à Arturo, qui n'arrive pas à se contenter d'un espace restreint pour écrire. J'en arrive à ma dernière partie, donc corps collectif. Donc, en miroir de ce chapitre Integrazione, il y a le chapitre Disintegrazione, qui est un chapitre qui arrive à la toute fin du roman. Et désintégrer, si l'on s'en tient aux définitions, c'est faire perdre son intégrité à un tout, réduire en particules élémentaires. En physique nucléaire, on sait que les corps radioactifs, en se désintégrant, donnent naissance à de nouveaux éléments. Et je pense qu'on peut se saisir de cette définition en l'appliquant à notre contexte, où la disintégration, nous le verrons, concerne précisément le corps de la narratrice. Donc c'est un corps qui est peut-être désintégré pour mieux renaître. Dans ce chapitre, la narratrice se décide très prosaïquement d'abord, puisque là je vous ai projeté la citation où justement la partie plus fantasmagorique arrive, mais le départ est très prosaïque. Donc elle se décide à affronter il dirigente pour obtenir le fameux insegnante di sostegno, qui était donc objet de lutte dès le début du roman. Et la narratrice, lorsqu'elle se présente au bureau du responsable, est soutenue par les parents des élèves de la classe de Arturo, qui décident de venir avec elle. Donc la narratrice puise en elle le courage d'un ultime argumentaire pour réclamer l'application de la fameuse loi 104. Et lorsqu'elle termine son discours, elle est nue. Quando ho finito di parlare, sono nuda, davanti a un tizio che non conosco, di cui non so neppure il nome di battesimo. Sono nuda adesso, non ho più i capelli, né unghie, né denti, la curva dell'inguine liscia puerile. Allora una si taglia di netto i capelli che le arrivano alla schiena e me li sistema attorno al viso. Tonia si toglie le mutande e mi aiuta a indossarle. Lo stesso fa con calze e scarpe. Ognuno di loro prende un dente alla bocca così che io possa di nuovo parlare senza far sibilare le consonanti. E la più chic mi dà delle unghie nuove colore del mare. Gli uomini mi offrono giacche e maglioni, camici e sciarpe per affrontare ancora la strada. Pour lutter, la narratrice a non seulement été forcée de se déshabiller, de se mettre littéralement à nu, de se défaire des vêtements, mais également de ses membres. Sa longue tirade l'a comme démembrée, désarticulée, désintégrée. Sa nudité n'est pas jugée, elle est un constat, un état de fait, et un constat qui donne naissance à autre chose, un élan de solidarité. Le collectif composé de parents d'élèves, donc certains qui sont identifiés, d'autres non, forme une masse qui elle-même se dépouille pour la revêtir. Donc Parella ici ne donne pas une leçon de morale, mais elle suggère autre chose. Elle suggère que le groupe a la force d'une désintégration qui peut donner lieu, en ce cas précis, à une renaissance. Donc le corps collectif, qui est soudé après le corps désintégré, c'est certes une utopie, mais qui a la même fonction que les hétérotopies de Foucault, c'est-à-dire qu'elle donne une direction. Un horizon, un fil à saisir, et donc celui que Parella nous tend, c'est celui de la solidarité. Je vous remercie.